lancée dans une homélie très énergique, très moralisatrice, sur les effets destructeurs, mortels même, de notre attachement à l'argent. C'est très tentant. Et c'est une tentation légitime, car le prophète Amos, puis Jésus, n'ont pas de mots assez durs pour rappeler ce dont les hommes deviennent capables lorsqu'ils ont laissé l'argent devenir leur maître. Pour gagner toujours plus d'argent, on peut tout jeter par-dessus bord. Honnêteté, justice, respect des autres. Toutes les valeurs qui donnent sa dignité à l'existence humaine. Mais cela nous est bien connu, hélas. Et nous n'avons pas besoin de la Bible pour connaître les ravages, les malheurs que provoque la soif excessive des biens matériels. Il vous suffit de lire la presse, de regarder la télévision. Pas de jour sans scandale financier, sans révélation de magouille, sans annonce de catastrophe sociale qui broie des vies humaines pour de prétendus impératifs économiques. Oui, hélas, tout cela nous est bien connu. Alors pourquoi est-il important de lire dans les Écritures ce que les médias vous répètent à longueur de temps? Eh bien parce que contrairement aux médias, les Écritures ne nous font pas seulement la morale en nous disant que ce n'est pas bien de voler, d'escroquer, de pousser les faibles à la ruine ou au désespoir par obsession de l'argent. Les Écritures ne nous placent pas devant ce qui est bien, devant ce qui est mal, avec toutes les zones intermédiaires, elles nous placent devant quelque chose de bien plus radical. Elles nous disent qu'entre ce qui fait vivre et ce qui fait mourir, il n'y a pas d'entre-deux possible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les Écritures nous disent « L'argent peut être non pas seulement un quelconque obstacle à la vie, l'argent peut couper. » Parler de la vie dans les Écritures, bien sûr, c'est nommer le Dieu de la vie. Ainsi, dans le livre du prophète Amos, ce qui manifeste qu'écraser le malheureux, tromper le pauvre pour de l'argent, sont des actes qui conduisent à la mort, c'est que la punition de ces crimes, Dieu lui-même promet solennellement de s'en charger. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob, « Non, jamais je n'oublierai rien de leurs méfaits. » Dans l'Évangile, pour nous faire réfléchir sur le rôle de l'argent dans nos vies, Jésus a recours à une parabole, l'une des plus déroutantes, des plus scandaleuses que les Évangiles nous aient conservées. On pourrait dire que c'est la parabole de l'intendant malin. Chassé par son maître parce qu'il l'a escroqué, cet homme va réaliser des faux en Écriture, il va une fois de plus escroquer son maître, mais non pas pour s'enrichir, mais pour se faire des amis qui vont le sauver de la misère. Et alors nous raconte Jésus, le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Telle est la pédagogie déconcertante du Seigneur. Pour nous faire réfléchir sur le rôle que tient l'argent dans notre vie, Jésus nous force en quelque chose, en quelque sorte, à admirer, au-delà de toute considération d'ordre moral, un homme qui utilise l'argent pour tisser autour de lui des liens vivants et salutaires. Cet escroc met l'argent au service de sa vie. L'argent n'est pas son maître, il choisit la vie. Et c'est cela qui le conduit à agir de cette manière. Alors après avoir une telle parabole, on ne peut plus se lancer dans une homélie très énergique, très moralisatrice, sur les effets destructeurs, mortels même, de notre attachement à l'argent, ce ne serait pas respecter la pédagogie du Christ. Condamner l'argent qui peut nous rendre esclaves, bien sûr, et nous l'avons marqué dans la bouche du Christ, le qualificatif qui accompagne le mot argent, c'est l'adjectif malhonnête. Mais il y a, à travers ce que Jésus nous dit, plus important, plus urgent, que de sentir combien la soif de l'argent lui-même entraîne vers la mort. Nous avons d'abord et surtout à entretenir, à réveiller en nous le goût de la liberté, le goût de la vie. Profondément, c'est ce goût-là qui nous pousse à choisir Dieu pour maître et non pas l'argent. Est-ce que nous mettons au service de la vie tout ce que nous possédons, l'argent et le reste? Dans notre civilisation, on le veuille ou non, l'argent est incontournable. C'est une composante inévitable de l'existence sociale, un moyen d'existence. Un moyen. Quel but utilisons-nous? Pour quel but utilisons-nous ce moyen? Favorise-t-il l'ouverture de notre intelligence, le développement de ce que nous avons de meilleur en nous, la mise en œuvre de nos capacités? Et surtout, repensons aux amis que se fait l'intendant malin. Est-ce que l'argent nous met en relation avec d'autres? Est-ce qu'il crée des solidarités constructives? La parabole de Jésus ne me fournit pas de réponse immédiate. Elle ne dit pas comment faire un bon usage de mon argent, un usage selon l'Évangile. Mais elle nous propose un nouvel éclairage. L'éclairage de la vie. L'éclairage de la vraie liberté. On nous éloigne du climat moralisateur et culpabilisant, où nous plonge facilement la question des biens matériels dans la vie chrétienne, en particulier dans la vie catholique. Alors prenons quelques instants pour méditer ailleurs, pour méditer sur le bon nom que Jésus donne aujourd'hui à ceux et celles qui veulent être ses disciples. Oh, il ne développe pas, mais dans notre cœur, bien profondément, nous avons sans doute compris ce qu'il veut dire, nous savons ce qu'il veut dire lorsqu'il nous appelle à devenir, jour après jour, des fils et des filles de la lumière. Prenons quelques instants pour méditer ce terme, fils et filles de lumière, et découvrons que notre cœur l'accueille avec confiance et espérance.